vendredi fin d'après-midi, nous croisons Roberto Fraga. Bonjour Roberto.
Bonjour.
Alors, tu as une actualité chargée en ce moment, tu peux nous présenter un petit peu tous les projets qui arrivent et ceux qui sont en approche dans le prochain mois ?
Dans les projets qui arrivent, c'est-à-dire ceux qui étaient présentés à Nuremberg, il y a Spinderella, un jeu pour enfants avec une araignée magnétique chez Zor, et c'est Gigamic qui le fait en France. Donc le nom en France, c'est Gare à la Toile. Il faut le voir, en fait, c'est une araignée au bout d'un fil qui descend en 3D et qui capture des fourmis avec un système d'aimant et comme quoi des fois ça sert d'avoir une araignée au plafond, tu vois. Donc il y a ça. Ensuite, il y a la réédition du fameux Squad 7, pas mal d'années après, hein, puisqu'il était sorti en 2004. Du coup, donc c'est Yellow qui le réédite sous le nom de Pingo Pingo. Donc on a changé quelques trucs, on a élargi la cible. Squad 7, c'était plutôt un jeu garçon, 7-14 ans, un peu au départ c'était Indiana Jones, mais c'était un peu devenu un peu guerrier après. Et là, ça devient un peu plus déconnade avec des pingouins cannibales. On débarque sur une île, il y a des pingouins cannibales. Donc pour le coup, c'est un peu moins sérieux entre guillemets qu'avant, et avec une nouvelle bande son. Enfin, les graphismes ont été refaits, ils sont très bien. Donc c'est super parce que c'est un jeu qui méritait de vivre encore. Enfin, il méritait pas de s'arrêter. Donc voilà, il y a ça. Sinon, l'actualité un peu plus exotique, il y a un jeu qui sort à Taïwan, mais qui restera en vente dans le sud-est asiatique pour l'instant, qui s'appelle Polar Rush. Un jeu avec des Inuits qui se déplacent sur la banquise, et la banquise elle craque, donc le plateau il se coupe en plusieurs morceaux forcément. Et celui-là il est publié par un éditeur taïwanais qui s'appelle Kanga Games, et il va le vendre pour l'instant, lui il a les droits simplement pour le sud-est asiatique. Voilà, bon, on verra si. De celui-là pour l'instant, non, mais c'est un peu long comme histoire, hein. Si je commence on n'a pas fini. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi la réédition d'un jeu chez Abba là, qui s'appelait San Roberto. Un petit jeu en petit format là, avec des voitures. On doit suivre un circuit. Oui, c'est ça. C'est un thème maintenant alimentaire. Hein. Le thème alimentaire dans les jeux, ça marche très bien. Hein. Les œufs, les crevettes. Enfin, les crevettes, c'est encore autre chose. Mais ça marche. Et du coup, là, donc le jeu est réédité par le Scorpion Masqué, et ça s'appelle À la Bouffe. Donc ça va être distribué par Yellow. Et il le fait en format boîte carrée comme La Chasse aux Monstres, parce que c'est un bon format, un bon rapport qualité-prix. Et les illustrations sont superbes. Et le truc pour normalement SN, c'est le célèbre Panic au Bloc, qui depuis le temps qu'il devait arriver, il arrive enfin. Mais. C'est un truc un peu spécial, c'est difficile, toujours difficile à développer des jeux qui ne rentrent pas forcément dans les cases. Donc c'est ça.
C'est chez Repoprod. Et il était hier au off déjà, il s'appelait Dr Panic, c'est son nom officiel.
Ouais. Pour l'instant, c'est le nom officiel du moment. Le but, c'est de trouver un nom international pour avoir un boîtage international. Donc c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Panic au bloc, c'est pas possible. Dr Panic, on va voir. De toute façon, il faut qu'il y ait panique, peut-être Doctor, non, du coup. Du coup, voilà. Et quoi d'autre sinon, et dans les projets futurs, chez Matago, on a signé deux choses. On a un jeu qui a été créé en 1993 et qui a été primé en 2000 à Boulogne-Billancourt. La même année que les Dragons du Mékong, donc j'avais eu 3 prix cette année-là, et je le présentais depuis donc ce temps-là, et comme j'y croyais à mort, j'ai toujours continué ce jeu. Quand il sera édité, je raconte quand il sera, parce que là on s'est signé, il va se faire, mais j'attends toujours que le jeu soit, et quand il sera sur le marché, je raconterai l'histoire qui est assez épique. Et donc là du coup c'est Matago qui va le faire, et c'est un jeu qui s'appelait Akhenaton, dans un temple égyptien avec des miroirs. Qui est très bien, et là du coup on va basculer le thème sur la cité interdite en Chine, à Pékin, et parce que c'est un thème qu'ils aiment bien et que s'y colle bien. Donc il y a ça, et aussi surtout on a signé récemment avec mon ami Johan Lemonnier. Je fais pas souvent de jeux avec d'autres personnes, c'est dur de trouver des gens qui s'habituent à l'ours des montagnes malouines, et du coup celui-là, Polaris, on l'a fait ensemble, et c'est un jeu qu'on a depuis un an ou deux. C'est un jeu qui ne ressemble à rien. un jeu de...
Beaucoup de tes jeux ressemblent à rien.
Attention, hein. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je suis réellement satisfait quand je crée un jeu qui ressemble à rien, en fait, ouais, qui est vraiment original. Donc, c'est pas toujours, on n'a pas toujours l'occasion de le faire, mais La Danse des œufs à l'époque, c'était un peu ça. Squad 7, c'était un peu ça. Trompe éléphant, c'était un peu ça. Après, les jeux qui ressemblent à rien, c'est pas forcément facile à vendre non plus, parce que les gens, ils ont besoin de références souvent. Quand ils aiment bien dire, ah oui, mais ça, c'est comme la bataille navale, mais en plus, il y a ça. Bon, bah, Polaris, c'est comme la bataille navale, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un genre de, on en parlait tout à l'heure, de Space Cadet beaucoup plus simple et plus efficace. Mais j'aime pas comparer parce que ça a rien à voir. En fait, c'est très simple. C'est un jeu coopératif avec deux équipages. Ça peut se jouer donc à 1 contre 1, à 2 contre 1, à 2 contre 2, à 3 contre 2. Ça peut se jouer donc au maximum à 4 contre 4. Donc deux équipages de sous-marins qui sont face à face. Chacun a un rôle. Capitaine, détecteur, mécanicien, responsable des armes. Et ils sont tous complémentaires. Chacun, le seul matériel du jeu, c'est chaque joueur équipé d'une feuille A4 effaçable avec un feutre effaçable. Et il y a un écran pour masquer forcément entre les deux. Et c'est tout. Donc le capitaine, il a une carte où il trace sa route, il donne les ordres. Nord, route au sud. Bah, route au nord et au sud, c'est pas possible déjà. Mais route au nord, route à l'est. Le détecteur, il écoute le capitaine adverse et il note sur un calque la route de l'ennemi, mais il sait pas par rapport à quoi, parce qu'il sait pas son point de départ. Et plus il a d'infos, il fait coulisser le calque sur la carte. Et il y a un moment, comme il y a des îles sur la carte, il y a un moment où ça va coller, plus ou moins. Et après, on a des moyens d'affiner la position de l'ennemi en envoyant des drones, des coups de sonar, etc. Et donc, tout le monde doit parler. Dans ce jeu, si l'équipage ne communique pas, ils sont morts. Ça veut dire que le détecteur doit signaler ses infos au capitaine, le capitaine doit l'écouter, il doit écouter le mécano qui lui dit « Non, on peut pas faire ça, on peut pas aller dans cette direction, sinon les moteurs vont exploser. » S'il écoute pas, on est mort. Le responsable des armes aussi, il faut qu'il parle, tout le monde parle. Et c'est comme sur une passerelle de bateau. En plus, je connais ça, puisque je travaillais pas mal sur des bateaux. Et donc, bah, les deux sous-marins se poursuivent à coups de sonar, à coups de machin. Donc, c'est rigolo parce que ça se passe vraiment comme dans... C'est Octobre Rouge, en fait. Il y a des moments où l'ennemi est proche. Donc, d'un coup, on panique, on accélère. On est obligé de faire surface parce qu'il y a plein d'avaries. Il faut monter en surface pour purger les radiations. Mais quand on est en surface, on est vulnérable parce qu'on a révélé une de ses coordonnées parce qu'on a sorti le périscope. Donc, du coup, l'ennemi fonce sur vous. On panique, on donne des ordres dans tous les sens et puis on explose. Et puis voilà. Donc, en fait, c'est super... ça monte en intensité. Au début, il y a la traque. Et après, plus on se rapproche les uns des autres, bah plus ça s'accélère et au final, bah, l'équipage qui sera le mieux coordonné et gagnera. Donc c'est le point commun entre tous ces jeux-là, Panico Block, Squad 7, Pingo Pingo, Polaris. C'est des jeux où on vit une expérience. J'aime bien ça, les jeux où on vit une expérience un peu particulière. La preuve, c'est que... Comment ça? La preuve, c'est que du coup, on a l'idée et on va le faire prochainement dans un bar à jeux à Rennes. On va faire une soirée où on va combiner les trois jeux. À l'heure du jeu. Donc, ça sera le vendredi 20 mars. 21? Bah, c'est le vendredi 20 mars ou 21 mars. Donc, le soir. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, on va combiner trois jeux. On va commencer par les sous-marins amènent les aventuriers à proximité d'une île. En route, ils peuvent rencontrer d'autres sous-marins. On commence par le premier jeu. Ensuite, après, ils débarquent sur une île et ils trouvent des pingouins cannibales. Donc, c'est Pingo Pingo. Et après, on va soigner les blessés avec Panico Block. Et pour finir, l'idée que j'ai eue l'autre jour, j'ai proposé aux gérants de l'heure du jeu, là, Laurent et Xavier, ils ont accepté, tant pis pour eux, c'est que on va faire une version Polaris Extrême. C'est que chaque membre d'équipage, donc 4 de chaque côté, il va avoir un petit verre. Il y aura un équipage russe qui aura les verres remplis de whisky et de vodka et les Américains de whisky. Et quand tu fais surface, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vides les ballasts. Tu dois vider ton verre, cul sec, en criant Nos Dolorier ou Salud. Et quand tu plonges, il faut les remplir. Parce que dans le jeu, on est obligé de faire surface plusieurs fois. Donc plus tu fais surface, plus tu as de chance de te faire descendre. Mais bon, c'est pas recommandé. C'est pas une règle officielle, mais c'est juste un truc fun pour terminer la soirée.
Avec modération, donc.
Avec modération. De toute façon, sur les sous-marins, c'est simple, l'alcool est interdit. En vrai, c'est vrai. Ah oui, sinon, t'imagines. Donc c'est ça, l'actualité. Et puis, je sais plus ce qu'il y a. Je me rappelle même plus qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il doit y avoir quelques petits trucs à droite à gauche. Attends, j'ai le temps de faire une pause pour réfléchir.
Ouais, bien sûr. C'est Olivier qui fera le... Olivier, là, je te mets une petite musique d'ambiance, faudrait que tu coupes.
Roberto
Fraga est habité par Chanel, il porte un blouson sport.
Je peux te poser. On va pas le dire. Alors, les Polaris, donc, qui arrivent chez Motago, effectivement, ça fait un petit moment qu'ils tournaient à Cannes. Qu'est-ce qui a été le déclic pour que d'un coup, pour qu'il arrive ? Il arrive cette année d'ailleurs ?
Non. Non, en fait, comme je te disais tout à l'heure, c'est un jeu qui ne ressemble à rien et qui effraie un petit peu. Donc, ce jeu qu'on l'a montré à tout le monde, il a plu à tout le monde. Aussi bien à Repos qu'à Space Cowboys, qu'à Yellow, parce que c'était. Mais, comment le faire, comment le vendre, où le mettre, dans quelle case, etc., etc., etc. Et du coup, après, ça nous a obligés aussi à faire des modifs. Depuis le off de Cannes l'année dernière, il s'est passé beaucoup de choses. On avait un système 2D qui était complètement. On sentait bien que ça collait pas. On voulait que le truc se résume à chacun une feuille à 4 effaçable et un feutre. C'est tout. Et qu'avec ça, on crée une ambiance vraiment de passerelle de sous-marin avec les ordres qui fusent, et etc. Donc maintenant, on y est arrivé. Et du coup, ça s'est passé. Souvent, tu sais comment c'est des concours de circonstances. Un jour, on était chez Volumic. Et Farid, il aime beaucoup le jeu, Ben Salem. Et du coup, il avait invité Hicham à venir, qu'il avait déjà vu, mais pas la dernière version. Et puis... Hicham, les gens de Matago, ils aiment bien, ils font des super beaux trucs. Takinoko, le dernier, le River Dragon, il est excellent aussi, ils font des super. Et donc, ils sont capables de faire des choses exceptionnelles. Et ils aiment se lancer, se lancer des défis un petit peu. Et là, c'en est un justement parce qu'il faut, déjà au niveau du type de jeu, au niveau du matériel, parce que c'est pas si simple que ça de trouver des feuilles plastiques transparentes avec les bons feutres qui vont bien. Il n'y a qu'à demander à Looney Quest, à Libellude. Oui, mais le feutre que j'ai vu, il n'est pas encore super parfait. Ou alors moi, ce que j'ai vu, c'est en démo sur un festival et il bave pas mal. Donc il faut, c'est un challenge aussi de trouver le bon matériel. Parce que si tu ressors noir à la fin de la partie, tu me diras le mécano dans un sous-marin, c'est possible, mais après les autres, non, quand même. Donc c'est ça. Mais du coup, on l'a signé tout récemment. Donc à mon avis, celui-là, ce sera pas pour cette année. Peut-être pour l'année prochaine, mais je préfère. Moi, je suis pas pressé. J'aime pas quand les éditeurs se pressent pour sortir un truc. Je préfère plutôt que. Pour Panic Block, on était servi, hein, ça dure un bout de temps, mais on sait qu'eux, ils travaillent bien dans la durée aussi, Robopron. Donc, il n'y a pas de challenge de course de vitesse à vouloir absolument qu'un jeu sorte tout de suite. Je veux qu'il soit bien fait et voilà. Des deux. Repoprod, ils prennent leur temps pour faire les jeux. Hein. Rampage, il a mis un bout de temps aussi avant de sortir. Panic au bloc aussi. Après, c'était encore un truc un peu spécial. Mais là, pareil pour Matago, je pense que ça va prendre un bout de temps, mais il faut. Ouais.
Et tu as une musique d'ambiance, non ? Parce que pour sentir vraiment dans le sous-marin, je pense qu'il y a besoin. Enfin, on a toujours dans la tête, c'est.
Là, il y a. Ouais, dans le jeu, il n'y a pas besoin. Par contre, la différence entre Pingo Pingo et Squad 7. C'est que dans Pingo Pingo, il faut être dans. On fait du bruit. Mais par contre, dans Polaris, il ne faut pas de bruit. Parce que chaque détecteur écoute le capitaine adverse. Donc, faut vraiment, s'il y a du brouhaha et qu'on n'entend pas ce que dit le capitaine adverse, c'est pas la peine. Donc, on ne peut pas jouer à Pingo Pingo et à côté à Polaris, c'est pas la peine. Et donc, du coup, on a fait une bande son comme ça pour le fun, mais elle sert simplement à. C'est une bande son avec de la musique qui monte en intensité au fil de la partie. Ça dure environ à chaque fois 12 à 15 minutes. Mais c'est juste à jouer quand on est chez soi, qu'on est dans un environnement sonore qui est correct, où on peut avoir une bande son et s'entendre parler aussi. Là, sur un festival comme ici, déjà, c'est. Ah ouais. Sur le off, on le fera sans bande son. Hein.
Mais même du coup, sur un festival, quand le jeu, pour le montrer sur un festival, ce sera difficile. Quand on entend le brouhaha qu'il y a ici, qu'il y a Essen.
Bah, c'est ça. C'est ça, il y a des jeux qui, c'est sûr que si c'est compliqué, il faut avoir un espace particulier. Ouais. Pingo, ça se dubrie aussi, ouais, pareil, tu vois. Bah, Pingo, je sais pas comment ils font, mais je me rappelle comment Foxmind et tous les gens qui avaient la licence Squad 7 avaient fait à SN, ils avaient carrément loué un smirmorque et ils avaient organisé un espace à l'intérieur du smirmorque sur le salon d'SN pour. Ouais. C'est ce qu'il faudrait amener un smirmorque pour faire jouer. C'est ouais, bah oui, évidemment, forcément.
Bah, ça permet d'isoler parfaitement. Et puis Matago, ils ont les moyens maintenant, il n'y a pas de problème.
Ou jouer dans les toilettes, tout simplement. Ça fait environnement sous-marin. En plus, tu tires la chasse quand tu plonges. Et... ouais, c'est ça, c'est simple.
C'est étonnant en revanche en termes de ligne éditoriale pour Matago, ce genre de jeu, non ?
C'est, mais moi j'ai pas pensé à ça. Pour moi, Matago, c'est des gens qui ont envie de faire des choses originales, des choses nouvelles et qui ont envie de se lancer dans des trucs. C'est pas, il y a des éditeurs souvent qui, il y en a qui ont une ligne éditoriale précise. Ils vont dire, nous on fait ça, mais pas autre chose. Et d'autres qui vont dire, nous on n'a pas de ligne, on cherche des produits. On veut des choses qui flashent et je sais pas si c'est forcément idéal d'être enfermé dans une ligne. Des fois, tu peux passer à côté de choses qui auraient pu être bien. Après, il faut communiquer, quoi. C'est une question de com.
C'est vrai, mais il y a des éditeurs qui typiquement se sont enfermés dans leur ligne éditoriale. Enfin, Istari, ils auront du mal à sortir de la ligne éditoriale qu'ils ont. Et Matago, ils ont quand même une image auprès des joueurs. Et du coup, je sais pas si ce genre de jeu, c'est leur image, quoi.
Ben, je te redirai dans quelques temps. On verra. Eux, c'est l'inverse, c'est presque l'opposé. Ils ont vraiment une ligne hyper précise et ils sont reconnus pour ça. Et les gens vont chez eux parce qu'ils savent qu'ils vont trouver tel type de jeu. Mais chez Matago, ce que les gens vont chercher aussi, c'est la qualité du matériel et de l'illustration. Et après, entre Room 25, les dragons du Mekong. Le point commun c'est quoi, c'est joli matos, donc je pense que c'est le bon capitaine qu'il fallait toper.
Ça se voyait
de toute façon, tu sais ça se voit à la tête des gens quand tu leur montres des choses, ça, il y a quelque chose qui se passe, donc
Je pense effectivement que Matago, ils aiment le challenge sur ce genre d'édition, ça peut être pas mal. Tu as une boîte de Polaris qui est sous cellophane, comment tu fais ça ?
Comment je fais le cellophane ?
Comment ça se fait que tu aies une boîte comme ça sous cello ? En général, les auteurs, c'est plutôt des boîtes, d'ailleurs, c'est rarement des boîtes toutes bien faites, bien imprimées, c'est un truc à l'arrache, ouais. Récupéré.
En fait, c'est simple, c'est que donc, ce soir au off, donc vendredi 27 février... Ouais, c'est mort.
Ah oui, bon. Ça sera pas en ligne. Hein.
Ouais, c'est pas grave. Bon, on organisait. on organisait un concours, un tournoi de Polaris avec 4 tables en simultané. Donc, les vainqueurs de chaque table vont s'affrontent en demi-finale. Il y a une finale. Et donc, il y a 4 vainqueurs. L'équipage des 4 vainqueurs, on leur offre à chacun un proto gratuit. Et comme. Avec tout le matos, les feutres, les écrans, toutes les feuilles. Et aussi une clé USB en forme de sous-marin avec la bande son. Et du coup, je les ai mis sous plastique pour faire plus je sais pas quoi, faire classe, ouais, tout simplement.
Plus pro. Non, mais c'est très bien. Ça donnera envie d'y être. Alors, dommage, hein, quand vous écouterez, ce sera trop tard.
Ouais.
Mais vous savez que, ouais, et ce sera sur eBay, hein, évidemment. Ou sur Ocaseo, s'il n'y a pas de mise aux enchères.
En plus, c'est déjà complet. Hein.
C'est déjà réservé.
Il y a 32. Ouais, on a mis sur. On a fait ça sur Facebook.
Ouais.
Et il y a 4 équipes, 8 équipages de 4, donc 32.
Ah bah. Et alors, par contre, dans une interview il y a 3 ans, qu'on avait fait à Essen, qu'on n'a malheureusement pas pu mettre en ligne, tu parlais un peu de l'aventure de jeu en Inde, si je me rappelle bien. Et qu'est-ce que ça a donné ? Alors, cette interview, on n'a jamais pu la mettre en ligne parce que de mauvaise qualité son. Mais 3 ans après, à l'époque, tu disais que ça pouvait être un marché intéressant. Qu'est-ce que t'en retiens 3 ans après ?
Ben, j'en retiens que j'ai rencontré des gens sympas et que j'ai envie de les revoir de temps en temps. En fait, c'est moi j'aime bien l'idée de tout simplement parce que j'aime bien rencontrer des gens d'un peu partout. Il n'y a pas de frontières dans le jeu, donc je me disais que le marché indien là dans les 15 prochaines années, le pouvoir d'achat des classes moyennes va exploser. Enfin, c'est ce qui est prévu. Et du coup, ça fait des clients potentiels et j'avais envie de trouver un interlocuteur sympathique. Sachant que je connais pas du tout le marché indien, non, mais j'ai regardé un petit peu à droite à gauche, je suis tombé sur une boîte qui s'appelle Pegasus Toycraft. Et c'est une boîte qui s'est lancée avec deux ingénieurs en informatique. Ils ont monté leur boîte il y a 6-7 ans. Et ils font aussi, ils ont commencé par faire des kits créatifs un peu comme Centosphère, des choses comme ça. Mais avec beaucoup de choses avec du sable coloré. Ils aiment beaucoup ça en Inde, tu sais, pour les fêtes. Et du coup, bah, j'y suis allé comme ça au flanc et j'ai pris rendez-vous avec eux à Nuremberg il y a quelques années. Et ils ont publié pour l'instant 4 jeux Fraga. Après, c'est anecdotique, hein, anecdotique. C'est pas pour gagner des millions, ça je m'en fous, mais c'est parce que je me dis que si tu montres que t'es là, et vaut mieux qu'on se rappelle de toi que l'inverse. Donc si un jour ils ont envie de... Et alors, c'est ce qui se passe en ce moment d'ailleurs. Le premier jeu publié chez eux, ça a été Les Dragons du Mekong, en version indienne. Donc ils ont rethématisé, ça s'est appelé Sundarbans. C'est la région du delta du Gange. Il y a plein de canaux et des crocodiles, donc c'est pas les dragons, c'est les crocos. Donc ils l'ont sorti après le matériel, c'était spécial, hein, parce qu'ils vendent quand même les boîtes 5 euros hein, là-bas. Et le deuxième, ça a été... au début, comme ils ne connaissaient pas trop, ils voulaient se rassurer un peu et publier des jeux qui étaient déjà publiés en Europe. C'est une façon d'assurer un peu. Et on leur a cédé les droits pour un jeu qui était édité chez Ravensburger qui s'appelait Mambo, avec des hommes préhistoriques. Donc eux, ils l'ont fait aussi. Sauf que c'était... au début, ils se sont un peu plantés. C'était un peu trop compliqué pour la cible qu'ils envisageaient. Sachant qu'eux, ils vendent principalement que dans les 5 plus grandes villes d'Inde, New Delhi, Bangalore, Mumbai et compagnie. Donc du coup, ils ont dû vendre 1500 ou 2000 boîtes dans l'année. Mais ce qui est rigolo, c'est que maintenant, on les voit tous les ans. Et la deuxième année, ils ont pris deux jeux qui n'étaient pas édités nulle part, en fait, des jeux inédits. Donc c'était quelque part une marque de confiance, un peu dire, tiens, on va... dont un jeu avec CD, sorti en Inde. Incroyable. Et... Et du coup le premier c'est le jeu Inuit là, qui a été publié à Taïwan. Et ben eux ils ont les droits pour l'Inde et ils en ont fait un jeu qui s'appelle Eskimemo, voilà. Et le deuxième, donc c'est un jeu dans la jungle avec pour les enfants, avec des bruits d'animaux où tu dois identifier les animaux en écoutant les bruits. Donc c'est marrant. Et là, il y a d'autres trucs en cours, mais c'est juste parce que c'est pas une affaire de dire je fais ça parce que voilà, ils vont vendre 3 milliards de jeux ou compagnie, je m'en fous complètement. C'est simplement parce que ils sont sympas et puis parce que je pense que c'est bien d'avoir un contact comme ça et de garder. Comme pareil, on est allé en Argentine voir et quelques temps voir les Argentins, l'éditeur de jeux. On a même fait des démonstrations de jeux à Buenos Aires dans un... C'était rigolo, donc c'est simplement parce que le jeu, ça permet de voyager, de rencontrer des gens à droite à gauche, donc comme on aime ça, bon, on le fait. Voilà.
Parce qu'en droit d'auteur, à 5 euros le jeu, ça fait pas bien lourd. Il faut en vendre un sacré paquet le marché de l'Inde. Bon, s'il explose, ça sera bien, mais sinon, ça va pas faire.
Non, ouais, là, on avait renégocié un peu plus. Je crois qu'on devait être à 10% ou un truc comme ça, mais c'est pas grand-chose non plus. Mais non, bien sûr, non, mais ça représentait que dalle. Mais ça, comme je te disais, on s'en fout, c'est le contact ce qui compte. Vaut mieux que les gens t'aient dans leur liste d'auteurs, de gens préférés que l'inverse. Ouais, c'est vrai. Mais que ce soit même pour des éditeurs comme Hasbro, Mattel, qu'on voit depuis plus de 20 ans, à chaque fois on leur montre des trucs, ils adorent ce qu'on fait, mais ils prennent jamais rien. Mais. Bon, voilà. Vaut mieux qu'ils aiment, qu'ils aient envie de te voir que l'inverse. La preuve, c'est que là, comme Mattel Hasbro, ils commencent à faire des jeux spécifiquement pour le marché allemand. D'ailleurs, le jeu de Brian Yu, là, qui a gagné le Kinderspiel. D'ailleurs, bref. Et du coup, non, mais juste pour l'anecdote, Brian Yu, c'est un gars qu'on voit depuis 15 ans et qui travaille chez Mattel. Et il récupère des centaines d'idées de jeux. Et après, il crée de temps en temps des jeux aussi pour... c'est toujours un peu... ça veut pas dire qu'il est influencé, mais qui ne le serait pas en voyant défiler plein de choses. Et c'est le cas chez quelques éditeurs comme ça. Hein. Chez ABBA, c'est la même chose aussi. Hein. Quand tu vas chez ABBA, ils ont un team de 90% des jeux qui sont développés chez ABBA, ils sont développés en interne.
Donc, c'est vrai que le Bagna qui est sorti l'année dernière, là, quand on l'a joué, c'est un ensemble de mécanismes déjà vu, quoi. Mais la sauce a pas prise. Par contre, pas pour nous, en tout cas, Bagna, qui était nouveau chez Mattel.
Comment tu dis Bagna?
Bagna, je crois, ça s'appelait. Ah, ça t'a pas marqué, mais toi, c'était pas Bagna? Bon, ben bah, d'accord, c'est peut-être pas ça. C'était Schloss machin avec les fantômes, ouais, ouais. Mais après, ils en ont fait un deuxième c'était pas terrible.
Ça ressemblait à. D'accord. Mais en fait, ce qui. Donc, du coup, ben, ils ont maintenant, ils demandent aux auteurs de leur présenter des jeux, pas simplement des méga trucs qui puissent convenir au marché américain et mondial, qui se comprennent en 3 secondes avec où tu leur fournis le clip de pub pour la télé avec et compagnie, mais aussi des jeux qui puissent convenir au marché allemand. Donc du coup, ça, c'est comme si tu montrais un jeu à Ravensburger aussi. Mais depuis qu'ils font ça, tous les jeux qui sont sortis chez Mattel pour le marché allemand, c'est des jeux de designers de Mattel, du Mattel Team, c'est pas des... Ouais, en interne. Il y a Knizia qui en avait fait il y a un bout de temps, elle avait fait un jeu sur un thème médiéval il y a très longtemps. Mais bon, Knizia, c'est différent, lui, c'est...
Il fait partie de la maison.
Ouais, il fait partie de la maison, ouais. Donc c'est ça. C'est pour dire que moi, je suis pas... Je continue à voir les gens, même s'ils m'ont pas pris de jeu pendant des années et des années, parce que j'ai toujours de l'espoir et c'est pas simplement une affaire d'imagination. Et tu le sais, c'est aussi autant de persévérance que d'imagination, en fait, je pense. C'est vrai ? Là, le fameux jeu Akhenaton, bah, depuis 93. Et là, il va être publié en 2016 ou 2000, ouais. Donc, ça, si tu es sûr que ton truc est bon et compagnie, et il faut continuer, c'est, tout simplement. C'est comme si tu montes dans un train et un jour il s'arrêtera dans la bonne gare. Si tu, voilà. Sauf que. C'est... Ouais, c'est pas terrible. Je sais pas pourquoi je parle du train, mais bon. Non, c'est parce que c'est Colt Express. Et je suis content que cette année, d'ailleurs, cette année, félicitations au jury, hein. La sélection était très bonne, elle était très francophone, donc ça c'est super. Ouais, et je trouve que en ce moment en France il y a une qualité surtout graphique exceptionnelle. Je pense qu'on est, on peut le dire, hein, que on est en pointe en Europe. Hein. Même par même les Allemands là, je dis pas au niveau type de jeu machin. Si, il y a aussi les super mécanismes et compagnie, mais au niveau graphique. Ça devient vraiment exceptionnel. Ça donne envie de tout acheter quand tu vois ce qui sort. C'est... Ouais. Ouais, c'est ça.
Et peut-être en deux mots, ton activité Fragames, ça continue ? Tu voulais aussi faire un peu le rôle d'agent, etc. Tu fais toujours ?
En fait, ouais, c'est ça, en sous-marin. Non, mais en fait, c'est pas compliqué. C'est que tu sais que depuis que j'ai quitté la douane en décembre 2010, donc il y a un moment quand tu travailles sans filet, puisque maintenant c'est le cas, hein, il n'y a plus le salaire de fonctionnaire qui va avec. Donc c'est super parce que c'est toi le patron, tu es libre, tu fais ce que tu veux, etc. Mais il y a un moment, il faut que tu assures aussi, il faut que tu fasses les jeux qui te plaisent, mais aussi des jeux qui se vendent. Donc il faut bien se concentrer. Et j'ai eu l'opportunité de diversifier un petit peu, mais c'est pas... un truc qui continuera. Il y a eu d'abord l'édition, puisque j'ai coédité avec BlackRock, Merlin Zinzin. Mais ça, c'était Johan de BlackRock qui m'a proposé de le faire, comme l'auteur de jeu, Annie Clobet, était du coin, à côté de Saint-Malo. Donc du coup, on m'a demandé si je voulais participer tout simplement à co-financer le truc. Et c'était une façon de voir un peu le boulot d'éditeur, mais tu veux sans vraiment être impliqué, sans prendre trop de risques. Enfin, quand même le risque de l'argent que tu investis. Mais donc, du coup, ça c'est juste ponctuel. Et l'activité d'agent, c'est simple. Il y a quelques auteurs, des fois, qui m'ont demandé de me montrer des jeux. Et je l'ai fait 2 ou 3 fois. Mais j'ai bien précisé que je voulais le faire que pour montrer des jeux qui soient comme les miens, en fait. Parce que je me suis aperçu qu'on peut vendre bien que des jeux qui te plaisent. Moi, je peux pas présenter un jeu Istari, c'est pas possible. De toute façon, je serais pas crédible. Et en plus, tu peux plus apporter des idées sur un jeu qui te correspond aussi, parce que des fois, il faut faire un peu évoluer le truc. Donc, du coup, j'ai dû signer des jeux de quelques auteurs, d'un auteur qui s'appelle Sébastien Descades. J'ai signé chez un éditeur américain un party game qui s'appelle Strike a Pause, qui normalement devrait sortir chez Interlude sous le nom de Statue. Mais du coup, on l'a signé. Quand tu commences à devenir, depuis 23 ans, on commence à devenir un petit peu plus efficace au niveau contrat, parce que c'est pas simplement inventer des jeux, c'est aussi les signer au meilleur moment, avec les meilleures personnes. C'est pas simplement dire tout le temps, on se vous cède les droits mondiaux. Il faut penser aussi que si tu veux en vivre, il faut aussi un petit peu penser au côté financier. C'est comme ça. Hein. Et donc, du coup, ce jeu-là, pour le compte de cet auteur, on l'a signé chez plusieurs éditeurs. par territoire. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué parce que ça fait plus de contrats, plus de négociations. Et donc voilà. Bon, après, on va voir ce que ça va donner. Et on a signé un autre de ces jeux chez BioViva, qui s'appelle Playa Playa, qui est un petit jeu coopératif à partir de 4 ans, qui est super. Et sinon, j'ai dû signer un truc en Espagne dans une compagnie qui s'appelle Imaginarium. C'est une compagnie qui se trouve à Saragosse et qui a ils ont un fonctionnement un peu particulier. Ils ont des boutiques, ils sont propriétaires de leur boutique. Ils en ont 180 en franchise et 180 en propriété à travers le monde. Et elles sont implantées que dans des endroits hyper stratégiques, des centres un peu comme les Zara un peu, mais dans des endroits vraiment très stratégiques, dans les aéroports, dans les gares, principalement les pays latinos, mais pas que. Et du coup, ils vendent. Il y a beaucoup de jeux qui ressemblent à beaucoup de choses qui existent et des jouets aussi. Mais on leur a signé 4 jeux, dont un en tant qu'agent. Bonjour Robert. Qui est un très vieux jeu François Koch, et du coup on l'a signé chez eux aussi, mais je veux pas que ça soit mon activité principale. De toute façon j'ai trop de projets, donc je peux pas, quand je fais un truc j'aime bien avoir le temps de le faire. Moi j'ai travaillé dans le temps avec des agents et je sais ce que c'est, il y a des agents qui prennent 36 000 trucs et ils ont jamais le temps de s'occuper de l'auteur. L'auteur, il aime bien avoir des infos. Après tout, il donne son bébé, il sait pas ce qu'il devient, qu'est-ce que tu vas faire avec, il va m'arnaquer, le gars, faut qu'il ait confiance un peu. Et moi, j'ai été des deux côtés de la barrière. Donc, du coup, maintenant, je passe plus par des agents. Quand tu connais les gens, t'as plus trop besoin. Mais, j'ai pas envie que ça soit comme ça, d'avoir trop de choses, prendre trop de trucs et de pouvoir, donc, du coup, j'ai jamais plus d'un ou deux auteurs avec qui je travaille, mais je suis super, super, super difficile. En fait, je suis jamais content. Et c'est dur de dire à un auteur que le truc est pas terrible, parce que ça se trouve, il l'est, mais pour quelqu'un d'autre, mais moi, je suis trop compliqué. Je suis presque exaspérant à ce niveau-là. T'as qu'à demander à Florence, tu vois. Et donc, c'est ça. Donc, il faut que ça soit vraiment exceptionnel et ça restera ponctuel. Je veux pas que ça devienne mon activité principale.
Merci. On a une petite demi-heure d'interview, c'est pas mal. Donc on va. Non mais il y a un petit moment avec la musique d'ambiance, donc ça va, on va couper un petit peu. Ouais, mais on va essayer de le coincer, ouais, on va essayer de voir un coup. Non, non, bah je sais pas. Attends, on va dire au revoir. Ah, tu quoi tu
non, non, à part.
Ah, à part, alors attends, on dit au revoir d'abord. Alors salut Roberto.
Ouais, à bientôt, merci à tous.